On est à l'âge du siège, qui est un centre d'art contemporain. Voilà, je suis Pascal Peset, directeur de ce centre d'art. Et donc, c'est un lieu qui a pour vocation le soutien à la création à travers un programme d'exposition et d'accueil d'artistes en résidence, avec cet atelier logement dans la cour. Et tout ça mis au service d'une politique de médiation en direction des publics. Et là, aujourd'hui, on se retrouve autour du travail d'Émilie Sâtre, ici, qui a donc été accueillie en résidence de septembre à décembre 2019, l'année dernière, et donc avec son exposition, et donc qui est constituée d'œuvres qu'elle a réalisées durant sa résidence. Donc toutes les œuvres qui sont présentes ici ont été réalisées durant ce temps. Voilà, donc c'est un lieu qui se consacre aussi à la production d'œuvres d'art nouvelles. Et également, pour chaque exposition, on conçoit ce format de publication qui est composé avec des visuels et aussi à chaque fois avec un texte écrit par un critique d'art, le plus souvent, et qui donne un peu des portes d'entrée, des clés de lecture sur le travail qui est présenté. C'est dire aussi l'importance pour nous de la critique d'art et le soutien qu'on veut apporter aussi à cette profession et à ce lien avec la création contemporaine. Et donc, ça me fait l'occasion de présenter Fanny Drujon, qui est critique d'art et historienne de l'art, et qui donc a écrit le texte dans la plaquette, qui s'appelle « D'une ligne à l'autre ». Et donc, elles vont toutes les deux avoir un échange là, autour du travail d'Émilie. Et ça, c'est une formule nouvelle ici pour le lieu. On va faire ça donc maintenant pour chaque exposition. Il y aura une rencontre entre l'artiste présenté et la personne qui aura écrit dans la plaquette. Voilà, mesdames, je vous laisse.
Merci. Bonsoir. Donc, vous savez déjà qui je suis. Donc j'étais ravie, ça faisait des années, moi je suivais, alors d'abord sans la connaître vraiment, le travail d'Émilie. Et un jour elle s'est incarnée devant moi, donc c'était beaucoup plus pratique pour discuter, échanger. Et je m'intéressais beaucoup à son travail, sachant que j'ai beaucoup étudié la question de l'abstraction, et de la spiritualité. Alors, c'est pas du tout pour les questions de spiritualité que j'avais vers Émilie, quoique, les rapports avec la musique. Et c'est vrai que j'étais ravie lorsque Émilie et Pascal m'ont proposé d'écrire le texte pour cette exposition, parce que ça m'a permis de voir un travail en train de se faire. Et je suis ravie qu'on puisse continuer la discussion commencée pour le texte de la plaquette. Tu veux aussi dire quelques mots d'introduction avant qu'on commence à parcourir ensemble l'exposition, l'espace. On peut commencer à avancer.
On peut commencer à avancer. après, on va peut-être. Rentrer directement dans les questions.
Si vous avez besoin de vous asseoir un moment, il ne faut pas hésiter à prendre une chaise et à vous asseoir devant et à porter votre chaise. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Elle va bouger, mais vous pouvez vous asseoir si vous avez besoin.
Alors oui, pour... Alors en fait, ce que tu n'as peut-être pas dit, c'est qu'en fait, c'est pas nous qui sommes venus vers toi, c'est au départ toi qui étais venu vers moi, puisque tu avais vu ce travail que j'avais fait à l'Ardent-les-Chapelles, qui était le premier travail de dessin que j'avais fait un peu sur mesure pour un espace. Donc on m'avait confié les bains douches à Fontivy et j'avais décidé de faire un dessin qui soit vraiment un espace immersif pour créer un rapport au corps dans lequel le regardeur se perde. Et donc là, tu as voulu venir à l'atelier. Moi, je me suis dit, tiens, un petit sujet derrière la tête. Et effectivement, on a abordé ces questions de musique, de musicalité, de rapport à une certaine spiritualité, mais qui est plutôt une spiritualité à prendre au sens presque laïque et universel, et aussi un intérêt très fort qu'on avait toutes les deux dans une iconographie religieuse, notamment l'iconographie gothique. Et du coup, là, bon, ça m'a semblé comme une évidence de te proposer d'écrire le texte pour la Jussiège, et que ça soit un peu un début de collaboration intellectuelle pour pousser, voilà. Et c'est vrai que c'était intéressant, cette proposition d'écrire un texte pour le catalogue, c'est pas juste écrire, enfin pour une brochure, c'est pas juste écrire un texte, mais c'est aussi entamer une discussion qui peut être aussi un point de départ. Et avoir cette rencontre à l'atelier avant la résidence, on avait déjà du coup abordé les questions de l'échelle, les questions de rapport au corps de la personne qui regarde, que ce soit dans le très grand ou dans le très petit. Et ce qui avait été discuté en amorce, en discussion estivale avant cette résidence, en fait, toutes ces discussions, en fait, ont éclos dans le temps de la résidence. C'est-à-dire que ça a été un peu un point de départ et un point de réflexion qui a permis de développer une ligne de conduite pour la résidence et pour l'exposition.
Justement, alors nous voilà de l'atelier à la Jussiège. Donc moi, lorsque je suis arrivée, je suis venue lorsqu'Émilie était en résidence, avec évidemment en tête l'idée d'écrire un texte. Mais en arrivant toujours, moi, la question que je me posais, c'était déjà comment ça se passe quand un artiste est en résidence. Quel est le rapport au lieu? Je connaissais le travail aussi d'Émilie. On avait beaucoup discuté de l'implication du corps. Donc la musicalité, on en reparlera un petit peu après. Mais donc elle m'a présenté notamment le travail qu'elle commençait à faire. Il n'était pas encore achevé. Donc autour de sa fresque éthique, donc elle pourra nous parler justement, c'est une des questions de cette appellation qui est une appellation qu'on imagine, un titre qu'on imagine aussi justement pour peut-être une toute autre œuvre, une fresque éthique. Et donc là, on a plongé justement dans les matériaux, le lien avec le lieu. Donc ma première question, comment ça s'est justement passé, le choix des différents matériaux que tu as employés pour cette fresque épique dans laquelle on plonge? Vous pouvez rapprocher-vous aussi un petit peu.
Alors dans les matériaux, il y avait tout un travail sur l'accident et qui est déjà quelque chose qui n'est pas nouveau dans mon travail. Mais j'ai amené là des éléments métalliques qui sont venus rouiller et réagir sur le papier. Alors le lieu, s'il est présent en fait dans le travail, il est présent de manière souterraine. C'était un peu inadapté par rapport à ma pratique de vouloir calquer les choses de manière trop littérale. Donc en fait, ça vient charger le travail, ça vient. Mais on n'est pas obligé d'en parler. Après, ça peut être du ressenti plus. plus intuitif ou plus... Alors là, en fait, alors dans les premiers temps, quand je suis venue, les premières semaines à Valenciennes, j'ai pris mon vélo et j'ai arpenté un peu les alentours. Je suis allée visiter les sites miniers, en allant en vélo, je suis passée aussi devant des usines sidérurgiques. Alors quand on passe en voiture, on passe un peu vite, mais quand on est à vélo, on pose le vélo et on s'approche de plus près. Il y avait notamment ces grosses fabriques avec des chaînes qui sont absolument énormes, donc qui sont stockées en extérieur, qui rouillent. Donc tout ça, je l'ai remis là, mais voilà, après, c'est des choses qui ne vont pas changer la lecture que les gens peuvent avoir, mais c'est là de manière un petit peu pas fétichiste, mais voilà, c'est des choses qui sont voilà, que je viens le charger avec ça. Après, il y avait un rapport avec une certaine monumentalité aussi qui m'intéressait de se retrouver aussi à pied devant ces grands bâtiments industriels ou ces chevalements en métal ou en béton. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à voir ce genre de choses, ça imprègne par sa présence, par sa forme. Mais voilà, après c'est un peu le lieu, il est là avec la rouille un peu sur un peu de manière sous-jacente. Après il y a aussi une citation pareil un petit peu souterraine que j'ai faite des métiers à tisser. J'étais allée voir la manufacture de Roubaix où on voit tous ces métiers à tisser avec les réseaux de cordes qui s'entremêlent, et donc ça j'ai repris comme base pour les dessins, enfin pour les dessins peintures gravées. Donc j'ai repris et j'ai fait des déclinaisons autour de ces motifs de croisement de fil. Mais c'est pas nécessaire pour comprendre et approcher l'œuvre. Après, ça c'est plus quelque chose de souterrain qui vient, voilà, que je charge.
Alors, votre question, on parlait beaucoup aussi du rapport physique. Vous voyez, lorsque vous vous approchez, par exemple, déjà quand vous apercevez l'œuvre, moi ce qui m'avait aussi étonné, c'était le fait qu'on ait un espace blanc, donc soit qu'on l'appréhende de gauche à droite ou de droite à gauche. On a l'impression de fin, de début, c'est une question qui se pose. Donc déjà, à quel moment tu as pensé justement laisser cet espace-là, et en même temps, donc on a l'impression de paysage. Vous voyez, c'est une peinture paysage à proprement parler, sachant que tu nous laisses rentrer dedans, et en même temps, non, puisqu'il y a ces éléments qui vont nous... Qui nous empêche en fait d'interagir, d'entrer totalement.
Mmh. Oui, c'est comme une barricade. Bon, elle est ouverte quand même la plupart du temps. Alors cette idée du début blanc, alors ça fait partie des hasards du travail. On a toujours des plans au départ. Alors j'avais des plans d'exposition très clairs dans la tête. Il n'en est absolument rien dans ce qui est prévu au final. La résidence permet ça aussi, d'avoir ce temps d'expérimentation. Il faut pouvoir laisser des brèches pour que et pas se donner des... Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans ma manière de procéder, c'est-à-dire que je me donne une direction, mais c'est juste à titre indicatif, je ne suis pas obligée de la suivre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en se donnant une direction, il ne faut pas oublier d'être attentif à ce qui arrive en cours de route. Et donc le projet de départ, c'était de travailler ce papier entièrement, et tout d'un coup, pendant que je travaillais, j'ai vu se dégager cette surface blanche. Et là, c'est apparu comme une évidence qu'il ne fallait pas achever le travail, parce qu'achever le travail, ça l'aurait fermé. Et du coup, j'ai gardé cette ouverture blanche parce que c'était une manière d'amener dans ce panorama, dans ce travail, une idée de temporalité. Puisque on a comme le début de la pellicule ou la fin de la pellicule, le début, et donc du coup ça donne une idée de temporalité. Et du coup, bon, on a ces lances, ces droites, qui souterrainement rappellent aussi les lances, notamment des batailles de San Romano de Paolo Uccello, donc ces peintures de batailles qui sont disséminées dans plusieurs, il y en a trois qui sont disséminées dans plusieurs musées dans le Louvre. Et donc ils sont ces batailles avec des lances qui viennent rythmer l'image en fait. Et du coup, pour moi, cette pièce, du coup, elle est très dynamique parce que du coup, je peux pas m'empêcher d'avoir cette idée de la chevauchée. Et du coup de cette temporalité qui se déroule
en parlant de temporalité on va peut-être venir de l'autre côté. Je dois parler directement à Émilie comme si vous n'étiez pas là, ou si je dois vous parler et vous raconter comme si Émilie n'était pas là, c'est assez compliqué. Mais la notion de temporalité est importante pour moi, en tout cas ce qui m'a aussi intéressée dans le travail d'Émilie, c'est qu'on a, on sent la présence du corps, on n'a pas affaire, le corps n'est pas oublié dans son œuvre, au contraire on la sent, là, vous voyez dans les lignes, on sent qu'elle a travaillé, on sent les moments où... où c'était peut-être plus difficile, où il y a eu simplement des accidents de bras, de froid, Ça pour moi c'est aussi important. Et le temps, on sent que c'est un travail qui prend du temps, ça paraît, vous allez me dire tout travail prend du temps, mais en tout cas que c'est important, il y a une espèce de rituel qui est important aussi. Est-ce que c'est le cas, la temporalité que tu t'imposes, qu'il y a quand même des contraintes que tu t'imposes dans ton travail. Dans quelle mesure c'est conscient, important?
Alors, il y a les... Oui, alors là, évidemment, le corps est présent d'abord, on en a pas complètement parlé par rapport à d'autres pièces, mais le corps il est présent déjà dans un rapport à l'échelle, c'est-à-dire que dans ces formats qui sont les deux plus grandes peintures que j'ai faites de toute ma vie actuelle. C'était l'occasion aussi de pouvoir ici de par les dimensions de l'espace d'exposition et aussi par le temps qui était disponible pendant la résidence, le fait d'avoir un mois d'accrochage, c'est rare, c'est très 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 rare, et le fait d'avoir l'espace de travail aussi, ça a permis ça, de pouvoir engager des formats qui soient des formats qui dépassent le corps, qui soient des formats que le corps ne peut pas englober, donc on est... et qu'on ne peut pas, qui demande aussi un recul ou un déplacement. Donc il y a cette première notion là. Et il y a aussi Il y a aussi quelque chose qui... Alors pourquoi se contraindre à ce temps, à ce, cette... il y a quelque chose de très... on a vraiment l'impression d'être sur le fil à engager un travail comme ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si ça va pouvoir, si mon corps va être capable de faire ce travail, en fait. À la fois dans l'autre, il y avait l'histoire de pouvoir, donc c'est un papier que j'ai manipulé seul, hein, le papier du fond, donc un papier qui peut craquer, qui est rempli d'eau, qui est rempli de pigments, qui a failli se déchirer plusieurs fois, c'est quand même très spécial. Et là, il y avait cette idée du temps de la réalisation et du... Voilà, donc il y a aussi une perte en fait optique, c'est-à-dire que je fais un premier passage et après je refais un passage où là le regard se brouille complètement. Donc on retrouve à la fois peut-être un travail qui pourrait être un travail de l'ordre de la du des travaux de patience qui sont la tapisserie, qui sont ce genre. Et donc on retrouve du coup la tradition textile, mais il y avait un peu cette envie de ça, d'essayer de tresser le temps, et du coup il y a cette charge aussi qui vient remplir le travail, en fait, cette mise en... Cette attention du corps, et puis alors en fait les lignes, oui, elles se font d'une seule traite à chaque fois, donc ça demande aussi physiquement, alors c'est quelque chose qui se voit pas, mais physiquement, en fait c'était comme une danse tout du long, en fait, faire ce travail, c'était une danse pendant des heures, à écouter le pinceau, à faire en sorte que le pinceau écoute, suivre, donc en fait on est dans quelque chose qui relève de la danse, qui relève de la transe aussi, où à un moment le temps disparaît, les heures se ressemblent, il y a une musique qui accompagne ça aussi, et du coup il y a un état différent qui se crée, un état de conscience un peu différent aussi, et puis voilà, tout ça, ça charge le travail. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce travail, ce côté proche de la de cette sorte de transe, au bout d'un moment, au début, ça bute, et puis après, ça va tout seul, et puis le corps se réchauffe, parce que tout ça, il faisait très froid. Le corps se réchauffe, et à la fin, on enlève les pulls, et on continue. Et, ça. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que après, visuellement, cette transe se transmet aussi à la personne qui regarde, c'est-à-dire qu'il y a un trouble qui se fait, il y a un moiré qui arrive, il y a l'œil qui se perd,
sachant que tout comme l'eau, tu ne veux pas non plus, il y a quand même des interférences visuelles que tu places a posteriori, tu ne veux pas que la donner tout de suite, en fait.
Oui, c'est comme un arrêt, en fait, un moment peut-être pour mettre à distance ce moment-là, et puis après il y a un jeu aussi, comme si ces fils se détachaient du fond, et
voilà. On parle beaucoup là, parce qu'il me fait, putain, à chaque fois, vous savez, on sent quand vous suivez, quand vous entrez, vous regardez, vous suivez Céline, vous avez toujours cette petite interférence, l'impression d'avoir comme dans la musique minimale, une continuité, mais en fait, il y a le petit accident qui fait que la petite vibration qui fait qu'on se rend compte que non, on n'est pas dans une. Oui, c'est vrai, mais c'est pas du tout à ce niveau-là qu'on est. Le lien avec la musique, en fait, tu le fais à quel. Tu le ferais ? Est-ce que tu le ferais ? Ou pas ? Par rapport à la musique minimale.
Ah, la musique minimale, oui, c'est évident, parce que, en fait, quand on écoute. Alors chez Steve Reich notamment, c'est très frappant, parce qu'on a l'impression que c'est toujours la même chose qui est répétée. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est plus la même chose, alors qu'on avait l'impression que c'est les mêmes notes. En fait, c'est juste qu'il y a eu des petits décalages qui font que la suite de notes, comme il y a ce petit décalage temporel, c'est plus la même. On n'a pas compris le moment où ça a changé, mais on se rend compte, au bout d'un moment, on se rend compte que ça a changé. Mais on n'a pas pu dire quand, parce qu'il y a ces infimes décalages qui font que tout d'un coup, on est dans quelque chose d'autre. Et là, c'est pareil, il y a en fait tous les petits accidents du corps ou toutes les petites déviations du corps font que la ligne va... Parce que j'essaye de faire la ligne le plus droit possible et la ligne d'après essaye de suivre l'autre ligne le plus proche possible. Mais dès qu'il y a un petit décalage dû par, une personne qui se bloque ou un arrêt ou la jambe qui doit passer derrière, ou, du coup, il y a une petite bosse qui va induire du coup, une déformation un peu comme des ondes qui vont se répercuter sur les lignes d'après. Donc il y a des petits accidents, des petits changements légers qui ont après des incidences sur
le temps, le corps, la musique. Là, tu as parlé de la charge aussi,
qui est revenu
plusieurs fois dans nos discussions, là, déjà en parlant des œuvres des temps passés, des statues religieuses touchées, tellement touchées qu'elles se transforment en éléments difformes, en morceaux de bois dont on ne perçoit plus la structure initiale. Dans quelle mesure est-ce que cette charge, toi, tu l'intègres aussi à ton travail, c'est-à-dire qu'elle est consciemment, inconsciemment, on parlait de Paolo Uccello ici, on voit là tout ce travail qui a été fait en lien également avec ta découverte justement de ces réseaux de fils, mais encore une fois que tu travailles, retravailles, fais disparaître et qui sont un petit peu présentés à la façon d'icônes, des formations. Je vous ai dit que j'avais travaillé sur la spiritualité dans l'art. Mais dans quelle mesure est-ce que ça aussi, cette charge, elle est présente dans ton travail?
La question de la charge, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant et que j'ai compris assez tôt en fait quand j'étais à Rocamadour et il y avait cette Vierge noire. Alors pour ceux qui connaissent, je sais pas si vous connaissez, mais il y a cette Vierge noire qui est dans cette église, que les gens, il y a un lieu de pèlerinage, donc les gens montaient les escaliers à genoux pour arriver, les pèlerins à la fin du pèlerinage montaient tous les escaliers à genoux pour aller se prosterner devant cette Vierge. Et cette Vierge noire, quand je l'ai vue, en fait, c'était un petit morceau de bois où le visage était à peine visible, où il n'y avait quasiment plus rien de... C'était un petit bout de bois, mais qui m'a tiré les larmes. Et bon, c'est très rare de pleurer devant mes œuvres. Ça arrive, on s'en souvient. Et ce petit bout de bois m'a tiré les larmes. Donc, comment se fait-il que ce petit bout de bois c'était une douzième siècle, je crois, la Vierge de Rocamadour. Onzième?
D'accord, on voit précisément.
11 ou 12. Donc cette Vierge noire était en fait, enfin il y avait plus rien. Et en fait ce qui était, par contre, elle était chargée de toute cette dévotion, de son histoire, de ce que les gens, les gens qui l'avaient fabriqué avaient mis dedans. Mais du coup c'était donc il y avait elle, il y a aussi toutes ces sculptures africaines, notamment il y a des petites figures avec des trous à l'intérieur pour mettre des choses qui sont fermées avec un miroir. Bon, ou les gris-gris aussi, qui sont ces éléments de protection, qui sont des éléments en cuir souvent, qui enferment à l'intérieur quelque chose qui est qui a du pouvoir. Donc toute cette charge en fait va. Alors là on est dans quelque chose complètement impalpable. D'où ça vient, d'où ça sort. Mais voilà, moi ça me. En tout cas, c'est des choses qui me travaillent.
Et qui sont en fait justement là, par rapport à ce que tu peux nous parler un peu plus du travail que tu as fait ici, où on a l'impression de. On ne sait pas où se situer par rapport au, même à la. Au travail, à ton corps, qui fait que ça disparaît, réapparaît dans cette apparition-réapparition qui est récurrente aussi dans ton travail.
Oui, alors là c'est des... C'est, bon, ouais, c'est, si, il y a quand même, il y avait eu des minuscules précédents, mais là, j'avais vraiment besoin de creuser cette surface. Alors, l'idée de creuser la surface, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps dans mon travail, parce qu'à l'origine, je viens plutôt de la sculpture. Donc, c'est peut-être aussi ce qui fait mon rapport un peu particulier avec la matière picturale et avec le dessin. C'est que donc cette idée de la surface, alors ces dessins, ces motifs qui viennent en surimpression, là il y a aussi des idées de creuser la surface, de créer un fond et un avant-plan, de, voilà. Et en fait ça c'est déjà présent depuis longtemps, et le fait de creuser la surface, c'était une manière d'aller plus loin encore là-dedans en fait, dans cette problématique qui est déjà... ancienne chez moi. Donc j'ai voulu cette fois, donc en contraste avec ces grandes pièces, travailler sur des pièces petites qui amènent à un regard différent, une posture du corps différente. Et du coup j'ai travaillé sur... j'ai changé de support, là j'ai travaillé, j'ai fait des pièces à l'huile sur bois. Donc là on revient vers des pièces qui sont peut-être plus de l'ordre du tableau de l'icône ou du tableau de l'hôtel... comment on appelle ça, les hôtels domestiques, les petits hôtels que tu as à la maison, les petites peintures, comment ça s'appelle?
Les hôtels portatifs.
Les hôtels portatifs, voilà. Des petites peintures de dévotion qu'on emmène avec soi, qu'on a avec soi, qu'on peut tenir dans la main. Voilà. Donc là, il y avait un peu cette envie-là. Et puis, du coup, avec lui, de creuser la surface, de gratter dans la surface aussi. Il y a ce besoin-là. Donc, que ce soit avec les petites pièces sur bois ou les dessins qu'on va trouver un peu là-bas, ou c'est des peintures à l'huile que j'applique sur une couche de cire colorée, et je gratte pour retrouver en fait pour faire ressortir la couleur de départ dans le motif.
On travaille en profondeur,
ouais, en grattant. Du coup, on est plus dans le dessin, parce que... Ah, c'est de la peinture. On est plus dans le dessin, dans le sens où il y a un tracé, mais dans l'épaisseur. Et ensuite, là, revient en plus un autre travail, qui est un travail de ponçage et d'effacement, qu'on retrouve aussi dans la petite pièce qui est là-bas. Et dans la petite pièce qui est là-bas, qui a un rapport plus à une image effacée.
En tout cas, je repense à la chorégraphie. Tu parlais de chorégraphie au début, la chorégraphie lorsque tu traces les lignes. Donc moi, je finirai par justement cette chorégraphie à laquelle on a invité. Moi, j'ai découvert l'exposition tout à l'heure. Je n'avais pas pu venir au vernissage, malheureusement. Et on a justement aussi cet effet chorégraphique, ce qu'on a appelé d'un côté, quand on a la fresque épique, donc j'aime bien dire fresque épique. Donc lorsqu'on a la fresque épique, on reste à distance et puis on a envie de creuser, de voir la matière
Et d'un seul coup, un peu après, on a justement ces deux petites œuvres. Je vous invite aussi à nous déplacer dans le corps, il est présent, parce qu'on perçoit le tien dans tes œuvres, mais tu nous as pris aussi en considération, en nous invitant aussi à nous déplacer. Donc je dirais merci pour cette chorégraphie, pour cette discussion, merci également pour d'avoir été avec nous.
Je ne sais pas si vous avez des questions.
Vous avez travaillé la frise qui est le travail derrière, le debout,
Alors en fait, que ce soit sur la ou celle-ci, en fait, c'est travailler au sol et rouler parce qu'en fait, le bras ne peut pas englober. Hein. Donc c'est rouler pour pouvoir accéder au centre du papier. Et ensuite, donc ça veut dire que je travaille pour celui du fond à l'aveugle, parce qu'il fallait que je le déroule en même temps que je le reroule. Et celui-là, j'avais le déroulé, mais par contre, je travaillais toujours à reculons. Celui-là à l'aveugle et celui-là à reculons. Et après, donc une fois le fond fait, là je vais au mur. Ça pose un peu et après le motif s'impose et je le trace au mur. Donc après c'est une construction différente qui se fait et aussi un corps différent aussi, un rapport au corps différent.
Avec un travail en maquette en amont. Avec un travail en maquette en amont aussi.
Oui, un peu obligé, ouais. Oui, ça oblige, enfin l'échelle oblige ça.
Ça c'est bien, enfin, moi je trouve que c'est bien que tu abordes cette question-là parce que ça me semble être un des nœuds de ton travail, ce passage du sol au mur.
Ouais.
Parce que ça parle aussi de l'architecture, ça parle de ton travail, comment il parle aussi de tout ça, il parle bien sûr de l'espace, mais et parce qu'on l'a vécu avec toi et ton travail pendant 3 mois, et moi je me rappelle vraiment. Être comme à la journée, sortir, je te voyais travailler, je rentrais et je ressortais, je te voyais travailler, le travail qui avançait, il y avait ce rapport au temps. Et puis, à un moment donné, il y a ce temps du corps, je travaille à l'aveugle, je travaille à reculons, ce temps du corps qui se termine, tu lèves le travail au mur, et là, il y a un temps aussi.
Ouais, il y a
un temps, il faut que ça se dépose, il faut que tu prennes la mesure de ce qui a été fait.
Ouais.
Et puis, tu fais cette frise, je ne sais pas comment l'appeler, qui a un rapport aussi au motif décoratif pour moi.
Ouais.
Et ça, c'est un deuxième temps, qui est aussi le temps plus de l'œil, du regard.
Ouais.
Et c'est aussi des
et temps... Et peut-être plus du cerveau aussi.
Ouais. Du recul.
Et du cerveau, oui.
Et
du...
c'est aussi, ça parle aussi de temps de la peinture différente dans l'histoire de l'art.
Ouais.
Il y a le rapport, enfin l'action painting, par exemple, le corps, et des choses plus liées au regard.
Parce que là, c'est une peinture qui finalement est très construite, en fait. Dans la maquette, c'est très construit. Il y a beaucoup de calage de maquettes avant de... Parce qu'il y a la composition, les équilibres qui sont super importants. Et là, on retourne à la musique encore. Mais il y a ces questions comme ça, en fait, qui se jouent.
Ici, presque quelque chose de plus intuitif. Parce que vrai, moi, je rappelle le gros rouleau, comme un parchemin, en fait, qui était déroulé progressivement. C'est encore une autre temporalité.
Oui, j'aimerais profiter des remarques qui ont été faites là et de cette discussion pour poser aussi une question qui viendra, enfin déjà dire un ressenti, c'est qu'effectivement il est beaucoup question de temps et de corps, en tout cas en parlant de ces deux grandes œuvres. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé en me plongeant dans ces deux réalisations, c'est presque la question de l'instant. Plutôt, c'est le moment où la contemplation se fixe sur un temps particulier. Et du coup, je voulais savoir si cette question-là était présente dans ton travail. À quel moment aussi tu décidais de l'instant où l'œuvre est terminée ? Justement dans ce passage aussi entre l'horizontalité et la verticalité. Et est-ce que pour toi ça a une notion quelconque ou pas du tout avec le souvenir?
avec le souvenir.
Mmh. Ah, je pousse un peu plus loin, enfin voilà, j'explique peut-être un peu plus ce lien qui vient là, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même, enfin moi je me projette dans ces deux œuvres comme dans un instant domestique, contemplatif en fait. Ça pourrait être, je sais pas, l'évocation d'une figuration, d'un moment, de, je sais pas quoi, le reste d'une fête, sur la place du village. Ça pourrait être au cœur de la bataille d'Uccello pendant une aurore boréale. Enfin, voilà. Mais parce qu'il y a aussi ce moment de l'instant qui joue vraiment, je trouve, dans les œuvres, et du coup, ça appelle quelque chose comme ça dans de l'instant du souvenir. Mais je ne sais pas d'où si ça fait partie de ton travail.
Mais c'est. J'essaye de mettre quand même pas mal de distance pour que ça puisse être suffisamment ouvert. Parce que c'est ça et autre chose. C'est plutôt une idée de suspension. Donc ça peut être une fin de fête, ça peut être aussi juste une idée de poids. En fait, il y a les poils, il y a les nœuds, il y a la suspension. C'est ça et autre chose. Évidemment, j'avais la bataille de San Romano en tête, mais c'est ça et autre chose. C'est ça et c'est aussi l'obstruction. C'est ça et c'est aussi quelque chose d'incisif. C'est ça et c'est aussi une cristallisation. Donc je vais pas chercher à redire un souvenir ou à, mais par contre ça va se charger d'émotions perçues, ça va se charger de sensations de réminiscence et de sensations, mais c'est une image m'intéresse parce qu'elle est plusieurs choses, parce qu'une forme m'intéresse parce qu'elle est plusieurs choses.
Ouais. C'est sûr que le regardeur peut y projeter toutes les images qu'il a en lui, puisqu'il en est nourri. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une mémoire, il y a sûrement une mémoire dans le travail, mais ça ne suffirait pas. Ouais. Il y aurait une mémoire du début et de la fin. Ouais. Il y aurait une mémoire de la fatigue par le petit trait qui viendrait projeter lors de son cheminement.
Ouais. C'est une double charge.
C'est une double charge. Il y a une image en même temps dans ce travail-là, il y a une image qui n'est pas l'ordre de l'image qui serait celle de la bataille chez lui. D'ailleurs, il y a une temporalité énorme chez lui. Et il y aura un espace. On serait dans une forme de plonge dans cette image. Cependant, il y a autre chose qui apparaît, parce que ça ne suffirait pas de parler d'un espace. Parce que toutes ces lignes qui sont là, qui sont en train de la découper, de découper cet endroit, celui du dessin, parle de peinture. Ouais. J'aime bien utiliser les mots, je pense que les mots arrivent à définir ce que l'on veut. Ouais. Et ces lignes aussi hein, font un peu opposition, ou en tout cas sont un premier plan à ce qu'on peut suivre. Mm. C'est pas une opposition si brutale.
Non, c'est
ça
pas une
opposition. Des formes.
Puisqu'elles semblent, elles sont aussi un peu issues du fond en fait.
Issues du fond, quand vous les avez travaillées.
Sachant qu'on parlait, on entend aussi, on parle beaucoup de déplacements. C'est là qu'il y a aussi encore plusieurs déplacements.
Et quand on parlait de Cielo dans la bataille de San Romano, le déplacement est présent avec la position des chevaux, si on s'en souvient bien, ils sont de face, de profil, de dos. Il y a cette question de déplacement circulaire qui est dans cette bataille. Alors c'est vrai que le temps, on peut en parler, mais ça ne suffirait pas en fait. L'espace ne suffirait pas en fait.
L'espace ne suffit pas.
En fin de compte. Voilà, ça suffit, on ne peut pas continuer.
C'est la question du souvenir dont vous parlez, moi ça me. En fait, ça me pose la question par rapport au travail d'Émilie, du récit. C'est-à-dire. Quel récit ces œuvres nous proposent? Alors chacun, bien sûr, fait le récit qu'il veut, mais moi, ça me ramène à, on en a parlé, à quelque chose que vous connaissez peut-être, qui sont les peintures de l'abbaye de Saint-Savin, à côté entre Poitiers et Limoges, je crois que c'est Saint-Savin, où il y a un ensemble de peintures, je pense les plus vieilles peintures aussi bien conservées que moi j'ai jamais vues, elles ont 1000 ans, et dans lesquelles il y a à la fois des peintures au plafond qui sont des peintures de récits de la Bible. Au mur, il y a tout un motif décoratif qui court, et sur les colonnes, il y a des gestes picturaux très abstraits. Il y a tous ces codes de la peinture qui cohabitent. Et moi, quand je pense à ton travail, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a un souvenir qui me vient de cette église et de ces peintures incroyables dans la cohabitation qu'elles ont. Et là, je trouve que c'est des questions de récit, même si. Il faut qu'on fabrique, quoi, mais il y a des choses aussi qui sont de cet endroit-là.
Je réfléchis juste. Je vais jouer de la mouche du cache. Je ne passerai pas sous les fourches codines.
Le récit, mais
alors,
récit,
c'est très pertinent ce que dit Pascal quand on voit mon travail dans les choses plus anciennes aussi, parce qu'il y a des choses figuratives qui là sont pas présentes. Alors c'est des formes figuratives avec des personnages et tout, qui sont en général aussi des figures suffisamment ouvertes pour pouvoir avoir plusieurs lectures. Mais effectivement,
et peut-être on peut peut-être poursuivre autour d'un verre, de cidre. Juste pour dire deux infos, donc merci infiniment. Le but du jeu, c'est de faire entendre aussi la parole de l'artiste. Hein, ce type de discussion, c'est voilà, ça me semble être aussi ça l'important, et puis d'échange aussi avec Fanny. Voilà. Et donc deux infos, le prochain vernissage c'est le 6 mars avec le travail de Gabriele Chiari. Le même jour il y aura également un tout à coup, donc une lecture performance de Joanne Greslick dans le cadre du partenariat avec le Phénix à l'occasion du cabaret de curiosité. Et il y aura aussi une rencontre, discussion entre Gabriele et Karine Gadab, qui va écrire le texte dans la plaquette, le samedi 4 avril. J'espère que je ne dis pas de bêtises sur la date. Voilà.
C'est une belle conclusion.
Merci. Merci.
Bonne soirée.